Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je vais donc continuer l'histoire de l'Église et cette fois-ci, nous allons parler des évangiles. Nous voici donc à la fin du 1er siècle. Au milieu des persécutions, l'Église s'organise. Les textes qui composent le Nouveau Testament sont achevés et répertoriés. Les derniers, quoique la liste ne soit pas encore définitivement arrêtée, mais enfin, on connaît déjà les principaux. Les derniers venus sont l'Apocalypse et le quatrième évangile, tous deux œuvres de saint Jean, l'apôtre bien-aimé. Quoi qu'on dise, c'est saint Jean qui les a écrits. Je n'ouvrirai pas la discussion là-dessus, mais on sait très bien que saint Jean était d'un milieu cultivé et que même si son grec est entaché de plusieurs formules hébraïsantes, c'est bien de lui. À la suite de l'abbé Huvelin qui me sert de guide, je propose donc un arrêt de quelques instants sur les évangiles, puisque nous avons précédemment survolé les épîtres de saint Paul, autres écrits particulièrement importants. En écrivant les évangiles, les auteurs ont voulu nous faire entrer dans l'intimité de Jésus-Christ Sauveur. Ils agissent un peu comme des peintres, il est vrai, sous l'inspiration du Saint-Esprit. En quelque sorte, nous avons quatre portraits dont les aspects se complètent, tout en ayant présent à l'esprit que nous ne pourrons jamais qu'effleurer le sujet. Comme le dit saint Paul aux Romains, « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur ?» Dieu est beaucoup plus grand que nous, et celui qui prétendrait le faire entrer dans notre petite cervelle serait certainement dans une grave erreur. Saint Matthieu est probablement le premier auteur. Selon les avis les plus autorisés, son texte date de 42 ou 43, au moment de la dispersion des apôtres. Il se présente avec humilité comme le publicain Matthieu. Il écrit à l'usage des Hébreux et montre Jésus tel qu'on le voit dans la transfiguration entre Moïse et Élie. Il cite souvent l'Écriture, mais sans en préciser les passages, puisqu'il s'adresse à un public familier du texte. Jésus est le législateur promis par Moïse, plus parfait que Moïse, ayant le droit de demander davantage, puisqu'il donne davantage. Jésus est le fils de David, réalisant dans sa vie et dans sa mort les différents traits vus d'avance par les prophéties. C'est frappant d'ailleurs de constater, de voir le paysage dans son ensemble. Son évangile, l'évangile de saint Matthieu, a vraisemblablement été écrit dans la langue vernaculaire de l'époque, le syro-chaldéen, comme disent les experts. Saint Marc, lui, a écrit après saint Matthieu. L'ordre des événements est le même et ce n'est pas l'ordre chronologique. Mais il est écrit à l'intention de ceux qui ne sont pas juifs. La loi n'est guère évoquée et les usages juifs sont expliqués. La valeur de la monnaie traduite en monnaie romaine, on pourrait dire que c'est l'évangile de saint Pierre. Il en raconte en détail les faits et gestes de saint Pierre, la guérison de sa belle-mère, la transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïr. Il s'attarde avec complaisance sur tout ce qui est défavorable au prince des apôtres, les fautes de saint Pierre, les remontrances du Christ à son égard, quand le Christ lui dit arrière, Satan, tes paroles, tes pensées ne sont pas les miennes. Les remontrances du Christ à son égard, oui, les paroles de notre Seigneur à Saint-Pierre endormi au moment de l'agonie, les préparatifs de la scène, le reniement de Saint-Pierre, etc. C'est très probablement Saint-Marc qui, selon les phrases de son évangile, est le jeune homme qui s'enfuit tout nu dans la rue, dans la nuit, lors de l'arrestation de Jésus. Saint-Luc, lui, présente un autre portrait. La tradition dit qu'il était peintre et qu'il aurait recueilli des confidences de la Vierge Marie dont il aurait fait le portrait. De fait, il y a beaucoup de passages sur l'enfance du Christ. Chez saint Luc, la figure du Christ est plus humaine. Sa généalogie ne le définit pas comme fils d'Abraham, comme saint Matthieu, mais comme fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus nous console dans toutes les douleurs humaines, du centurion, de la veuve de Naïm, jusqu'au bon larron. Il a insisté sur l'enfance de Jésus, retrouvée au temple par ses parents et restée soumise à ses parents. Chez saint Luc, on trouve le Magnificat, le Benedictus, cantique de Zacharie, père de saint Jean-Baptiste, et la belle parole de Siméon, Tu peux laisser aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. » Saint Luc a essayé d'aller un peu plus loin dans la documentation, pourrait-on dire, concernant le Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection, bien sûr. L'évangile de Saint Luc a été écrit en grec, un grec très pur, comme le précise l'abbé Huvelin, expert en la matière. Saint Jean saisit notre Seigneur sous un angle plus intime. Le père Marie-Dominique Philippe, pour qui pense qu'il a écrit cet évangile après le choc subi par l'Apocalypse, pour reprendre ses souvenirs personnels les plus précieux et en faire participer aux fidèles. C'est en quelque sorte le dernier cadeau qu'il nous fait en nous montrant Jésus intime. Jésus n'est plus seulement celui qui passe en faisant le bien, mais celui qui s'arrête, celui qui parle avec Nathanaël, qui parle avec Nicodème, qui parle avec la Samaritaine. C'est merveilleux, ce dialogue avec la Samaritaine est quelque chose de remarquable. Qui part dans la maison de Béthanie où Marie-Madeleine va pleurer à ses pieds. Qui parle avec cette même Marie-Madeleine après la résurrection. « Ne me touche pas. » C'est l'évangile des repas et des banquets. On ne compte pas moins de 5 repas ou banquets dans cet évangile. C'est aussi celui des témoignages oculaires, celui de la piscine de Siloé et celui du coup de lance, celui du filet prêt à se rompre et Jésus faisant griller des poissons sur les rives du lac de Tibériade. On sent vraiment le témoin oculaire. Ce sont les confidences d'un ami. Les scènes sont plus intimes. Celui que Jésus aimait parle à ce que Jésus aime. La première ébauche des évangiles est dans le cœur des apôtres et des témoins du Christ. Saint Luc a dit dans son chapitre 2 « Et Marie conservait tout cela dans son cœur. » C'est ce que firent les apôtres avec quelques points forts. Le sermon sur la montagne et des phrases comme celle-ci « Le plus grand d'entre vous devrait être votre serviteur. » La parole du maître paraissait plus grande avec le temps qui s'écoule. Les âmes progressaient dans la méditation. C'est ainsi que le quatrième évangile donne un aspect nettement plus mystique que ce qu'on appelle les synoptiques. Une question actuelle. Le christianisme est-il une religion du livre, comme le disent les musulmans? En disant cela, les musulmans font allusion à la Bible et au Nouveau Testament. Notons en passant que, quelques siècles plus tard, ils ont inclus dans les religions du livre certaines croyances orientales. Je crois que Zoroastre et les Védas en font partie. Pour les musulmans, le Coran est incréé, transmis à Mahomet par un privilège spécial et par nature éternel et intouchable. C'est en quelque sorte le logos des musulmans. Mais ce n'est pas une personne, c'est seulement un document. Les juifs fondent leur foi, essentiellement leur pratique, sur le Pentateuque, la loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. La Bible en est une présentation, un commentaire, mais elle n'a pas le caractère sacré intrinsèque du Coran, tout en restant divine par son inspiration. Le christianisme est tout autre. Il est basé sur les témoignages concernant en particulier la mort et la résurrection du Christ. Dès son premier discours après la Pentecôte, c'est ce que prêcha saint Pierre. Après avoir rappelé le Golgotha dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, saint Pierre a dit « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes les témoins. Élevé dans la gloire et la puissance de son Père, il a reçu l'Esprit Saint qui était promis et l'a répandu sur nous. Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude, ce même Dieu que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Dans son épître aux Corinthiens, saint Paul affirme sans hésitation « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, notre foi est sans objet. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien, vous n'êtes pas libérés de votre péché, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. C'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. » Le fondement du christianisme n'est donc pas un livre, mais des témoignages de ce que chaque auteur a gardé dans son cœur. En creusant davantage, on peut constater que l'obéissance à un livre débouche sur la suggestion à un règlement, alors que l'attachement à une personne est de l'ordre de l'amour. La crainte du fouet a fait place à la crainte de déplaire, de faire de la peine. C'est ce qui permit à saint Augustin le célèbre aime et fais ce que tu voudras. On reste fidèle à un livre en respectant les préceptes. Ce n'est pas facile, c'est même impossible, si on en croit saint Paul qui a dit « La loi était donnée pour manifester notre péché ». Mais à ce détail près, notre conscience peut être tranquillisée après, avec des observances rigoureuses. Mais on ne peut jamais dire qu'on a assez aimé. L'acte de contrition dit bien « J'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment moins infiniment aimable et que le péché vous déplaît. » Notre mauvaise conscience, notre contrition, c'est parce que le péché déplaît à Dieu. C'est plus un règlement. Limiter l'amour au respect d'un règlement fait tomber dans le rigorisme, dans le pharisaïsme, dont le jansénisme est un bon exemple. Un prédicateur donnait dernièrement en exemple cet homme qui anathématisé un clochard dégustant une tranche de jambon un vendredi de carême, lui avait déjeuné d'un homard. Attitude facile mais non chrétienne. Le christianisme n'est donc pas une religion du livre, au sens où l'entend le Coran. C'est une religion de l'amour, portée à une personne, le Fils de Dieu, et à tous nos frères les hommes qu'il nous a confiés. Les commandements que nous devons garder, celui qui m'aime garde mes commandements, sont là pour aider notre nature blessée par le péché à mieux aimer. Ils sont analogues à la ligne blanche du milieu des routes de montagne. On respecte les commandements pour faire plaisir, honorer notre Sauveur, et non par crainte du martinet. Tout cela est bien connu, mais il n'est peut-être pas inutile de le répéter. Le Nouveau Testament est une invitation à regarder le plus haut possible. L'Évangile est une piste de décollage vers un amour infini.